Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue. J'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui Yves Leclerc, écrivain, poète, essayiste et voyageur, homme des bouts du monde. C'est dire si la perspective de se retrouver sur La Route Inconnue fait son affaire. Je rappelle que notre émission est parrainée par la revue de poésie trimestrielle Décharge et qu'en seconde partie d'émission, vous pourrez entendre les chroniques de Jacques Morin, directeur de publication de la revue, de Louis Dubot, l'un des piliers de la revue et ancien éditeur Audet Bleu, ainsi que Jean-Claude Touzeille. Bonjour Yves Leclerc, ce n'est pas la première fois que vous nous accordez une interview. En revanche, c'est la première fois que vous prenez place dans nos studios. Et je tiens à vous en remercier, séance tenante. Vous êtes en 1954 à Martigné-Briand. C'est en Anjou d'un père et d'une mère instituteurs. Il est probable que les livres occupaient une place importante à la maison.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, oui, les livres occupaient une place importante à la maison. Surtout du côté de ma mère, parce que mon grand-père aussi était instituteur. Donc,
longue lignée d'instituteurs laïques.
Non.
Non.
Non. Et donc, mon grand-père était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'histoire. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai.
Dans une région où l'histoire a fait des ravages, je pense aux guerres de Vendée qui ont largement débordé sur l'Anjou.
Oui, et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui. Puisqu'il avait fait les deux guerres.
Il a fait les deux guerres, oui. Alors si j'en juge par votre parcours ultérieur, parcours universitaire et littéraire, vous avez très tôt eu parti lié avec la littérature, avec les livres. Comment ça s'est produit, l'étincelle ?
Alors l'étincelle, c'est que j'ai toujours eu un attrait pour la poésie, même enfant. Et ensuite, j'ai fait des études de lettres, et dans ces études de lettres, j'ai rencontré aussi certains professeurs qui m'ont particulièrement éveillé à l'écriture poétique. Ça commençait au lycée, et puis après, en classe préparatoire, et après, à l'université.
Ouais. Est-ce qu'il y a un auteur, ou deux, ou trois, qui vraiment vous ont donné envie de mettre la main à la plume ?
Alors, les premiers auteurs qui m'ont particulièrement fasciné, c'était Verlaine, mais beaucoup aussi l'écriture surréaliste, Paul Éluard, par exemple, et d'autres écrivains comme Louis Aragon,
ouais.
Qui sont des écrivains que j'ai lus assez tôt. Nerval, alors je brasse un peu les choses sans tenir compte de la chronologie. Et un écrivain me fascinait aussi beaucoup quand j'étais adolescent, c'est Antonin Artaud. Je me rappelle que j'avais lu Le Théâtre et son double.
Ah, théâtre et son double est plus lisible, hein, parce qu'après, quand on aborde la poésie d'Artaud, c'est dur.
Mais j'avais entendu sa voix à la radio, justement, et ça m'avait. Je m'étais dit, celui-là, c'est ça, quoi.
C'est un vrai, quoi.
C'est ce qu'il faut faire, si j'ose dire.
Vous avez mentionné Verlaine, ça ne m'étonne pas, parce qu'en préparant l'émission, vous m'avez dit combien vous regrettiez finalement qu'une partie de la poésie contemporaine ait rompu avec la musique.
Oui.
La musique de la langue.
Il me semble que c'est un peu le défaut. Enfin, le surréalisme, c'est une très belle chose. Hein. Ça fait éclater complètement les conventions. Ça a permis d'autres voix de s'exprimer. Ça a permis aussi de renouveler l'écriture poétique. Mais après, il y a une espèce de mode au vers-librisme, comme on dit maintenant, qui, me semble-t-il, a perdu de vue ce qu'est vraiment la poésie à l'origine, qui est une science musicale, si j'ose dire, une technique qui joue beaucoup sur les sons et les rythmes. Et si on enlève ça, la poésie, on enlève... me semble-t-il, toute une part de la poésie. Alors, bien sûr, il y a l'état de poésie qui dépasse le rythme et le son, mais l'écriture poétique en elle-même repose sur le rythme et le son. Et je pense qu'il faut même retrouver là les origines sémitiques de l'écriture, puisque à l'origine, c'était aussi une manière de retenir dans la mémoire. Les nomades dans le désert transmettaient le savoir par la poésie, et ils retenaient la poésie grâce aux vers et aux rimes qui avaient une valeur, comme on dit, mnémotechnique.
Ouais. On parlera tout à l'heure des langues anciennes et des étymologies. Vous êtes un passionné de des étymologies. Je voudrais quand même qu'on revienne en arrière. Vous avez donc passé un doctorat de littérature française à la Sorbonne en 82, mais 4 ans auparavant, vous avez fait une rencontre. Et quelle rencontre, Yves Bonnefoy, racontez-nous ça.
Oui, alors c'est tout à fait le hasard. Hein. J'ai rencontré Yves Bonnefoy parce que dans mes études, je cherchais un sujet de maîtrise. Et j'avais hésité entre René Char, entre la poésie de René Char, un travail sur la poésie de René Char, et Yves Bonnefoy. Bon, il se trouve que je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai finalement choisi Yves Bonnefoy et je lui ai envoyé mon travail de maîtrise et ça a été le début d'une amitié fidèle et jusqu'à la fin de sa vie. C'est bien que Yves Bonnefoy, moi je l'ai connu très jeune, mais j'avais pas du tout un rapport de universitaire avec lui, hein, parce que j'étais un peu comme un jeune étudiant, un ami qui j'allais le voir assez souvent et nous parlions de tout, pas forcément de poésie. Hein, on parlait de la famille, enfin de sa famille, de sa fille, de sa de sa vie, quoi, de son passé, etc. Donc moi j'ai pas eu du tout un rapport universitaire, ce qui m'a pas empêché de faire mon travail, hein. Mais il m'avait répondu j'ai oublié de préciser qu'il a répondu à mon mémoire, une très belle lettre où il me disait qu'il avait remarqué que j'avais des talents
littéraires.
Voilà, vous l'avez dit.
Donc il vous a encouragé. C'est à lui que vous avez montré vos premiers poèmes, non ?
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est lui qui m'a incité à publier. Et le premier recueil qui est paru au Mercure de France, qui s'appelle L'or du commun, c'est lui qui l'a déposé.
Ouais. L'or du commun, c'est un très beau titre qui convient très bien à votre projet poétique, dont on parlera tout à l'heure, qui est de faire vraiment de l'or avec le plomb de l'ordinaire, le plomb du quotidien. Voilà. Vous avez dit, alors attendez, si je retrouve, j'orpaille l'ordinaire, je tamise l'or du commun. C'est ce que j'ai trouvé dans Bâton de randonnée, un livre dont je reparlerai tout à l'heure. On peut écouter un de vos poèmes, s'il va être lu. C'est la surprise de l'émission. Nous avons une lectrice aujourd'hui, c'est Laura.
Bonjour.
Bonjour. Que vous avez déjà entendu sur les ondes de Radio Grand-Ciel et qui a bien voulu lire quelques poèmes d'Yves Leclerc, extrait donc du dernier livre qui vient de paraître chez Gallimard, L'autre vie.
Échelle dans le vent. Étant enfant, il arrivait que tard le soir, une fois par an, vers la fin du printemps, une très vieille femme avec une petite remorque à deux roues vienne frapper au carreau embué de la cuisine où l'on voyait fumer la soupe. Elle demandait alors si elle pouvait coucher la nuit sous le préau de l'école. Mère de la route, elle me fascinait. Elle allait, je crois, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis m'est venue l'envie de prendre la route, comme au fond de ce bon bled d'Orient perdu, pour y trouver Dieu sait quoi du rêve d'une autre vie. Jeanne Douba, Tunisie, 12 avril 1999.
Merci beaucoup. Il est important pour vous de mentionner le lieu et la date où le poème a été écrit.
Alors, parce que j'appartiens à une génération qui a vu se développer sous l'effet de mode, on pourrait dire, intellectuel, notamment le structuralisme, contre lequel je n'ai rien, hein, parce que le structuralisme a permis de comprendre le monde, d'apporter d'autres clés dans la lecture du monde. Mais ça a donné naissance à toute une écriture un peu désincarnée. Yves Bonnefoy dirait d'excarnation, lui. Et moi, donc je tiens à ce que l'écriture soit, enfin pour moi en tout cas, l'état de poésie, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la vie.
Deux fois, vous employez ce mot-là, et je me rappelle que c'est aussi le titre d'un livre de Georges Aldas.
Oui, bien sûr, c'est un auteur que j'admire particulièrement, hein, Georges Aldas, à qui j'emprunte le terme, parce que je trouve que c'est un très très beau terme, parce qu'il y a une dimension éthique, en même temps que politique même, et pas simplement littéraire. Et quand on connaît Georges Aldas, c'est un individu qui était plein de poésie et qui ferait beaucoup de bien à notre époque, qui est un peu renfrogné, me semble-t-il, par certains côtés. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il m'a semblé qu'il y avait une écriture qui était un peu éthérée, un peu désincarnée, trop intellectuel à mon goût. Et quand j'écris un texte, en fait, le lieu, la référence à un lieu précis, à une circonstance d'écriture précise aussi, me paraît importante. Ça montre que c'est la preuve que l'écriture, elle est déclenchée par une chose qui est extérieure à moi et non pas par mon délire.
Elle est localisée.
Elle est localisée, mais elle est circonstanciée aussi, parce que j'ai tout à fait conscience d'écrire à un moment de ma vie, du temps, de l'histoire particulier, et que je reconnais dans sa limite. Et je pense que c'est une manière de montrer aussi que, comme Baudelaire le demandait, que l'écriture soit inscrite dans la finitude, pour reprendre un mot cher à Yves Bonnefoy. Finis en latin, ça veut dire la limite, hein, et nous sommes des êtres finis, et c'est par cette finitude qu'on arrive à trouver précisément l'infini, ce qui est, bon, la démarche d'ailleurs du poème, du titre « L'autre vie », hein, qui est une manière de dire que l'autre vie, c'est-à-dire l'éternité, enfin, on l'appellera comme on voudra, hein, le rien avec un R majuscule, dirait Roger Munier, est présent dans la vie, ou le royaume, pour prendre des termes qui font plus référence aux spiritualités chrétiennes, le royaume est de ce monde. Quoi.
Ouais, ouais. Alors, vous avez commencé à publier en 78 dans des revues, et à partir de 88 à la légendaire Nouvelle Revue Française, la NRF, avant donc de publier votre premier livre, vous en avez donné le titre tout à l'heure, L'or du commun au Mercure de France, et depuis vous avez écrit une vingtaine de livres de poèmes, mais aussi des essais et des récits, où l'on découvre votre goût de l'Orient, votre soleil spirituel se lève à l'Est. Hein.
Alors, disons que c'est en effet une fascination grande que j'ai pour l'Orient, ici, y compris, enfin, cela va du christianisme oriental, hein, jusqu'au bouddhisme, bien sûr. Hein, et cela est dû aussi au fait que j'ai eu la chance de rencontrer un écrivain qui s'appelle Pierre-Albert Jourdan, sur lequel j'ai publié d'ailleurs un essai cet hiver, et qui était un homme, un grand lecteur et un grand spirituel qui connaissait très bien, non pas pour s'y être rendu, oui, hein, mais par la lecture, par la méditation et par sa manière de vivre, qui était pour moi une sorte de sage, mais alors pas dans le sens occidental.
Oui.
Pas un gourou, oui, voilà, et pas dans le sens non plus d'un homme sage, sobre, pas du tout. Hein. C'était un homme qui avait une sagesse de méditation, mais qui aimait la vie. Hein, qui aimait,
un sage taoïste un peu, alors.
Voilà, exactement. Donc, vous voyez,
qui aimait lever sa coupe.
Le genre de sagesse.
Ouais. Alors, ce tropisme oriental, donc, vous l'avez nourri de nombreuses lectures, j'imagine, parce que vous aimez beaucoup citer, moi j'adore vos petits récits comme Bâton de randonnée ou Manuel de contemplation en montagne, où il y a ces truffés comme ça de citations, toujours très à propos d'ailleurs. Il n'y a aucun désir d'éblouir, aucun pédantisme là-dedans, mais ça vous permet aussi de situer votre pensée.
C'est-à-dire que ça nourrit un peu, ça me permet d'aller un peu plus loin dans des intuitions que j'avais, mais que je retrouvais chez des écrivains Chan, notamment, du bouddhisme Chan, ancien. Donc il y a des écrivains comme Wang Wei, comme Po Kui.
Ah, on en parlera, Po Kui. J'ai l'impression que c'est votre grand pote.
Tout fou. Oui, oui. Et j'ai un livre quasiment fini qui devrait paraître bientôt. À propos de cet écrivain-là, enfin, autour d'une expérience centrée sur cet écrivain pour qui, de même qu'à la radio France Culture, j'ai participé à une émission sur Wang Wei,
ouais,
avec Patrick Carré.
Oui, qui a traduit le Tao Te Ching, si je ne m'abuse. Non, qui avait traduit l'anthologie de poète taoïste.
Oui.
Alors, dans Bâton de randonnée, publié à la Table Ronde, donc vous résumez en quelques mots votre pratique poétique, mais qui est aussi une pratique existentielle. L'un ne va pas sans l'autre, si je vous ai bien lu. Donc, je le disais, j'orpaille l'ordinaire, je tamise l'or du commun. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette démarche pas facile, mais... Comment alors, vivez-vous, tiens, allez hop.
Oui, oui. Non, mais un orpailleur, comme vous savez, c'est un peu quelqu'un qui se penche dans les ruisseaux, prend un tamis, et puis essaie de trouver un peu les fragments d'or qu'on peut trouver dans un ruisseau tout à fait oublié. On pourrait dire par métaphore que c'est un peu la même chose, mais c'est pas très original, cette formule. On la trouve chez Baudelaire, hein, qui dit, comme vous l'avez rappelé, de plomb et de l'or, à partir du plomb, je fais de l'or, etc. Bon, on dit que l'écrivain, c'est un peu l'alchimiste. Donc, au quotidien, bah, c'est surtout ne rien forcer et laisser l'expérience se faire, par elle-même, c'est-à-dire accueillir les moments d'écriture. Par exemple, là, je peux vous dire, cet hiver, j'ai absolument rien. Enfin, j'ai très peu écrit de poésie. Hein. L'essai, c'est différent. Mais j'écris, je peux arriver que sur 5 mois, j'écrive 3 textes. J'ai un agenda, hein, donc j'ai un petit carnet de notes, quoi. Et j'ai écrit, par exemple, 3-4 textes. Et puis là, à partir de juin, j'ai écrit une 60aine de textes. Et oui, c'est... Puis peut-être pendant 3 mois, j'ai rien écrit du tout. Et après, donc, je laisse les choses se décanter, hein, pour Orpailleur, c'est ça. Donc j'attends. Et puis je relis 5-6 mois après. Je me dis, tiens, ça, il y a peut-être quelque chose. Donc je retire. Et puis j'attends, comme ça. Et puis après, je coupe beaucoup, j'enlève beaucoup. Hein. Par exemple, ce livre, L'autre vie, à l'origine, ça fait, je sais pas, il y a 120 pages, je sais plus, 120, 140 pages.
Laura va nous le dire.
Alors, les textes s'arrêtent à partir de la...
Page 140, c'est ça, non ?
134e page.
134, voilà. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, le manuscrit fait 250 pages. Enfin, le manuscrit duquel je suis parti, hein. Donc j'ai enlevé la moitié. C'est quasiment la moitié. Ouais. Alors après, la construction du livre, j'y attache une très grande importance. Hein. Mes textes ne sont pas des successions chronologiques. Alors on pourrait faire un journal poétique, mais ce n'est pas le cas exactement. Dans la mesure où il y a une reconstruction. Ici, on voit très bien, il y a des différentes parties dans le texte. Hein. Ça commence par le premier ciel, comme les cercles chez Dante.
Hein. Chez Dante.
Et puis il y a 7 étapes. Il y a 7e ciel, et avant l'envoi, hein, comme on fait un envoi dans la musique. Hein. Et donc, il y a une construction avec des étapes. J'essaie de construire ça de manière assez musicale. Hein, c'est-à-dire que peut-être encore plus dans les prochains, mais avec des mouvements lents, mouvements rapides. Une écriture rapide, une écriture lente. Des mouvements tragiques, mouvements plus légers. Hein. Par exemple, il y a des moments japonais... où les textes sont beaucoup plus comment dire, légers, hein, oui. Qui peut paraître un peu comme si je papillonnais un peu. Et au contraire, il y a des textes qui sont qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus tragiques. Et je joue beaucoup, comme dans la musique, sur les contrastes entre les moments tragiques et les moments légers, l'écriture longue, l'écriture courte. Et j'essaie aussi, de recueil en recueil, de ne jamais refaire ce que j'ai déjà fait. Là, par exemple, c'est une écriture, c'est écrit en prose, enfin, ce sont des poèmes
en prose. Prose poétique, oui.
Voilà, avec des rythmes, hein, quand même, et des assonances. Mais j'essaie, j'aurais pu faire, comme dans le journal d'Ithac, par exemple, des cassylabes, où j'en ai fait une centaine, je veux dire des dizains en décasyllabes. J'aurais pu faire comme dans le précédent qui s'appelle Coursipleux, des petits textes en octosyllabes de divers. Mais je change volontairement parce que je veux éviter de tomber dans une espèce de routine qui est toujours un risque, hein, parce qu'après on s'enferme dans son univers et il faut quand même essayer d'être vrai quand même.
Ouais.
Et de chercher une voie. Et d'ailleurs, je cite un grand poète néerlandais qui s'appelle Roger Copland, qui dit qu'il trouve à mal chercher. Hein, c'est le titre d'un de ses recueils de poèmes, qui trouve à mal chercher. Uh-huh. Et donc, moi, j'en suis toujours là. Hein, je suis comme dans une quête. Hein, et c'est un peu le pays où on n'en arrive jamais, d'André Dautel, quoi.
Qui a donné son nom à l'émission La Route Inconnue, d'ailleurs.
Oui.
C'est le nom.
C'est d'ailleurs le nom d'un
de ses romans, André Dautel.
Moi, j'ai une très grande admiration pour André Dautel. Hein. Il y a des textes qui ont... des poèmes, j'ai écrit un ensemble de poèmes qui ont paru dans mon troisième recueil au Mercure, qui s'appelle Prendre l'air. Parce qu'André Dautel, c'est fait partie des écrivains qui sont pour moi des modèles, hein, pour autant qu'on puisse avoir des modèles, mais enfin... C'est quand même quelqu'un qui incarne pour moi l'écrivain abouti par excellence dans sa posture à l'égard du monde même de la littérature.
De la littérature, d'édition.
Et de l'existence. Ouais. Il a une cohérence que je lui envie.
C'est l'homme à part, hein, vraiment.
Ah oui. Bah, Aldas, c'est pareil. C'est des gens qui sont qui ont des voix absolument...
Très singulières.
Très singulières et qui restent et qui resteront parce que ils sont justement un peu un contre-courant, mais ce contre-courant c'est le vrai courant, en fait, si j'ose dire.
On va se tourner vers Laura, qui va nous lire, si elle veut bien,
un
autre poème de L'autre vie.
Marcher sur les mots. Puis j'ai rejoint la poupe du bateau. Je préférais m'éloigner du troupeau beuglant des touristes. J'aimais mieux entendre tonner le moteur à deux temps du vieux Vaporetto, respirer l'heure du mazout, me laisser griser par les nœuds que noue et dénoue dans l'eau le poulpe de l'hélice. Le bateau s'éloignait de l'embarcadère, allait vers une autre île, glissait sur la mer. J'avais l'impression que l'on avançait à reculons, il me semblait me soustraire de l'horizon d'un tableau. Le décor des nuées, bouffé en gros cotillons blancs, qu'arrosait le fourreau pourpre et or d'un gigantesque projecteur. Au fond, Venise mourait dans des couleurs roses. La pierre avait des tons jaune tilleul. Je marchais sur les eaux. Tout semblait devenir grandiose, même le seul fait de parler tout seul. Punta Sabbioni, Italie, avril 1999.
Merci beaucoup, Laura. C'est un très beau texte. Alors là, très pictural, pour le coup.
Oui, c'est pictural, mais en même temps, il y a toujours une... Il y a un décalage... comment dire, ironique,
oui, hein,
une ironie un peu... Alors, très picturale, bien sûr, parce que Venise, c'est, ça s'impose, hein, je veux dire, c'est de la lumière, c'est de la couleur, enfin... Et en même temps, il y a un souci du ridicule, oui, dans un monde qui est si beau, enfin, finalement. Et à la fin, donc, c'est un peu en même temps une autocritique de l'écrivain... qui se prend un peu pour le nombril du monde, puisque là, on est complètement décentré, hein. Et j'aime bien aussi, j'aime beaucoup l'humour, notamment l'humour juif, des écrivains, chez les poètes juifs, on en trouve beaucoup.
Vous citez souvent Mandelstam, vous aimez beaucoup Mandelstam.
Pardon ?
Mandelstam, vous aimez beaucoup, notamment, entre autres.
Oui. Mandelstam, mais je pensais même aux poètes juifs de la grande tradition juive. La poésie yiddish, des choses comme ça, où on trouve des écrivains qui savent toujours se décaler par je pense que ça tient à la conception spirituelle qu'on trouve dans le judaïsme, c'est-à-dire une façon de danser sur l'abîme un peu comme ça, de funambuler. Il y a Chagall qui est un peu, c'est très magique, c'est très beau, c'est très poétique, mais en même temps il y a de l'humour.
Tragique. Et puis c'est humour.
Puis c'est tragique, ouais. Oui, parce que vous avez par exemple, on voit une tête d'âne à côté d'un couple, un bouquet, etc. Et tout ça, ça plane dans le ciel. Ouais. Et en même temps, il y a de l'horreur, il y a la tragédie, l'histoire qui est extrêmement présente. Et j'aime bien, je trouve que c'est ça que j'ai voulu rendre un peu dans l'autre vie, c'est d'étreindre à la fois ce qui est léger et ce qui est tragique. Et c'est très très difficile, parce que c'est une manière, il faut tenir les deux bouts, puis on a l'impression d'être écartelé. C'est comme si on avait un pied sur une rive et l'autre sur une autre, puis que ça, les deux rives s'écartent. Et le rôle de l'écrivain, c'est le contraire du diable qui sépare, c'est de rassembler. Et c'est de retrouver une cohérence à ce qui dépasse notre intelligence, parce qu'en finalement l'intelligence elle est pas apte à comprendre le monde.
Ouais.
Le monde est trop grand. Il faut avoir cette humilité là, d'où l'humour. Mais la difficulté c'est de tenir les deux.
Tenir sans les tenir, parce que
De lâcher prise.
Ouais. Il y a une phrase qui me poursuit depuis que je l'ai lue sous votre plume dans Bâton de randonnée. C'est un petit proverbe. Alors je sais plus s'il est taoïste ou Chan. Qui prend, celui qui prend, perd. C'est extraordinaire.
Ça, je crois que c'est dans le Tao Te Ching.
C'est dans le Tao Te Ching.
Oui. Celui qui prend, perd. Il y a toute une somme. Oui. Celui qui prend, perd. Bah, c'est extrêmement profond.
Extrêmement profond.
Une autre phrase qui est très très belle, que je cite toujours et que, sur laquelle j'ai plus travaillé récemment, c'est celui qui sait, ne sait pas. Celui qui ne sait pas, sait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Pas de mystique, parce que c'est pas un mot qu'ils aimeraient beaucoup, mais une intelligence du non-savoir, de l'inconnaissance. Non pas l'obscurantisme, attention, c'est pas
l'inconnaissance, comme le nuage de l'inconnaissance.
Voilà, c'est pas l'obscurantisme. Ouais. C'est l'inconnaissance, c'est-à-dire le fait que l'homme prétend savoir et l'homme ne sait rien. Et le taoïsme apprend particulièrement à passer dans le courant, et à se fondre dans le courant, et à accepter le courant, et à suivre ce courant.
Non-agir, le wu-wei.
C'est exactement ça.
C'est wu-wei, oui. Alors, vos influences philosophiques ou sapientielles sont diverses et variées, on l'a dit, donc taoïsme, zen, soufisme, christianisme orthodoxe, on le perçoit donc nettement dans le manuel de contemplation en montagne, par exemple, ou dans Bâton de randonnée que j'ai cité tout à l'heure. Pour autant, je n'ai pas l'impression que vous soyez un bouddhiste ou un taoïste, encore moins un soufi. Et dans votre dernier livre, L'autre vie, je le rappelle, publié chez Gallimard, c'est au Christ que vous vous adressez. Alors Yves Leclerc, vous en êtes où dans votre parcours spirituel?
Bah, disons que, si vous voulez, je suis... comment dire, j'ai, je suis animé par une sorte de schizophrénie, si j'ose dire, religieuse ou spirituelle, puisque j'allais dire que ma relation religion, elle est fonction des saisons. Alors, c'est-à-dire, ça, je le dis de manière un peu amusante, mais
vous avez raison.
Mais je dirais que l'automne et le, enfin pour moi, l'automne et l'hiver sont plus propices au christianisme, et le printemps et l'été sont plutôt pour moi propices au taoïsme. Voilà. Donc, je pense que ça se complète un peu. Hein. Il y a les religions, on va dire, du matin, qui sont du matin du levant d'ailleurs, hein, du matin du monde. Puis il y a les religions de l'Occident, okido en latin, ça veut dire se coucher, du couchant. Et il me semble que les choses se complètent. Alors je peux, comment dire,
choquer. Attends, quand même, je précise qu'il n'y a pas de tentative de syncrétisme dans vos ouvrages.
Non, on n'est pas là-dedans. C'est deux voies parallèles. Et vous voyez, le prochain livre que qui va paraître, hein, sera plutôt taoïste. Un peu comme celui que vous avez, le bâton de randonnée, tandis que l'autre vie est plutôt,
il est
marqué par le christianisme.
Par l'Occident, oui.
Et je trouve que, bon, alors, je plaisantais un peu, mais bon, le christianisme a quand même c'est une religion particulièrement nourrissante, hein, pour un écrivain. Alors, pour un écrivain occidental, je veux dire, qu'on soit Rimbaud le premier, hein, a écrit à partir du christianisme, hein, je veux dire, contre ou avec, je veux dire,
on peut pas y échapper.
C'est incontournable,
ouais,
je veux dire.
C'est incontournable.
Et on peut pas faire abstraction de notre inconscient collectif. Hein, et en plus de ça, c'est extrêmement nourricier. Hein, je veux dire, c'est quand même, je lis beaucoup les Pères de l'Église. Hein, j'ai une grande admiration. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Olivier Clément, par exemple, qui sont quand même des gens qui vous marquent. Parce que quand on parle un peu avec Olivier Clément, on devient modeste.
Alors, vous aimez voyager, vous perdre dans le monde, on l'aura compris, mais vous aimez tout autant demeurer, vous asseoir dans votre jardin à l'ombre d'un prunier pour regarder un rouge-gorge. Je me dis que partout, c'est le bout du monde.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, ouais.
C'est très d'hôtelien aussi, ça, je trouve.
Oui. Hein, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Oui. D'hôtel, il trouvait le bout du monde, lui, dans les Ardennes, hein, comme vous savez. Il a fait un malheureux voyage en Grèce, qui s'est très mal... Enfin, il a vécu un peu en Grèce, mais je sais que ça s'est très mal passé, parce qu'il est revenu...
Il a été très dépressif, très profonde dépression, qui était plutôt liée au refus de ses manuscrits par Gallimard, d'ailleurs, je crois, à l'époque.
Ah ben ça, je savais pas,
ouais.
Mais c'est possible. Et en tout cas... C'est vrai que le fait de savoir s'arrêter, hein, c'est ce que disait un ami que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Roger Munier, disait toujours qu'il fallait savoir s'arrêter dans la vie. On est dans un monde où on marche beaucoup, on bouge beaucoup, mais il faut aussi savoir s'arrêter et prendre le temps de regarder les choses, de contempler...
Et se laisser contempler, souvent il y a ça aussi, je trouve, un peu.
Pardon ?
Et se laisser contempler aussi par les choses, d'une certaine
manière. Ah oui, de toute façon, c'est un échange. Ouais. Oui, c'est une imprégnation, en fait. Ouais. C'est une disparition.
Ouais.
D'ailleurs, il y a.
Voie de disparition.
Oui, il y a un livre qui s'appelle comme ça. C'est une voie... Oui, c'est une manière de se fondre dans le décor, mais c'est lié à la légende très connue, que je crois que c'est Marguerite Yourcenar qui a raconté l'histoire du peintre qui disparaît dans son tableau, un peintre chinois ancien, enfin, etc. Et je pense que c'est une expérience qui est très sensible, notamment dans la peinture, une expérience que j'ai pas du tout, hein, je veux dire, en tant que peintre, hein, mais que j'ai d'oubli de soi, que j'ai concrètement dans la nature. Hein, et donc, on en arrive toujours à la disparition du sujet. Ouais. Alors, il y a le sujet, mais le sujet, finalement, disparaît dans quelque chose de plus grand.
Ouais.
Si bien que le poème devient presque après, une fois qu'il est lu ou qu'il est écrit, il est un peu comme une sorte de petit bateau pour traverser une rivière, mais une fois que... On laisse le bateau sur le bord et puis on le renvoie aux gens qui sont de l'autre côté, mais on n'en a plus besoin après. Hein, c'est un peu ça. Parce que même l'écriture est dépassée à ce moment-là.
Oui.
Et d'ailleurs, ça se rend compte chez des grands mystiques ou même des gens. Récemment, là, j'ai eu l'occasion d'assister à un concert et c'était une personne qui faisait de l'orgue. Enfin, c'est une organiste excellente. Et qui racontait qu'elle a été... que sa vie a été... Comment dire qu'elle a eu deux attraits dans sa vie, c'était soit de devenir une grande concertiste, soit une expérience spirituelle de moniale. Et en fait, elle a choisi la voie religieuse moniale. Et quand on entend jouer, parce que j'ai entendu jouer, et qu'on se rend compte d'un tel choix, on est et de l'intelligence de la personne, ouais, qui n'est pas une demeurée ni une hurluberlue. Disons que ça renvoie à un questionnement sur l'art, sur la vie. Parce qu'il me semble que maintenant, on a tendance à faire un peu de l'art une religion, c'est-à-dire ouais, une espèce de mythe, alors que l'art, c'est...
C'est une voie.
C'est une voie, mais c'est une approche parmi d'autres. Ouais. Hein,
On peut penser aussi également, là je prêche pour ma paroisse, mais au grand musicien, au grand pianiste Jean-Claude Pelletier, qui est aussi prêtre orthodoxe à Chartres. Et grand spirituel aussi.
Ben oui, mais c'est assez saisissant parce que il y a même des grands spirituels qui ont arrêté leur carrière artistique. Alors souvent après ils arrivent à les concilier, hein, parce que c'est vrai que chez ces gens-là ils trouvent un lieu d'expression au monastère, enfin où, voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir. Qu'il place l'aventure spirituelle, elle comprend l'aventure artistique, mais elle est au-delà, ouais, et elle l'englobe, mais elle la dépasse. Et c'est ça qui, et je pense que qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman, je pense que c'est dans le fond, c'est un élément commun aux différentes expériences spirituelles, quoi, hein, religieuses ou non.
Il nous reste trois petites minutes. Mmh. Est-ce qu'on peut dire deux mots de Pocouilly, puisque vous êtes en train d'écrire un livre à son propos il se qualifiait lui-même de moyen ermite, et je crois que c'est une appellation que vous revendiquez pour vous-même aussi.
Oui, il l'appelait moyen ermite, c'est-à-dire que lui, contrairement à des gens comme Wang Wei ou Han Shan, qui sont des ermites absolus, c'est-à-dire que Han Shan vivait dans la montagne, complètement séparé, il était pris un peu pour un
fou, hein,
pour un fou, oui, et il en était content. Et de temps en temps, il descendait au monastère, paraît-il, avec un balai, il s'amusait à balayer dans les couloirs pour faire comprendre aux gens qu'il y avait des choses à balayer. Bon, lui, Pocouilly, il a toujours vécu de manière beaucoup plus commune et ordinaire, avec une famille, des enfants, etc. Et c'est un homme que j'aime particulièrement parce qu'il a aussi une carrière de haut fonctionnaire qu'il a abandonné pour des raisons multiples. Et ce que j'aime particulièrement chez Pocouilly, c'est que, contrairement à Wang Wei, peut-être, c'est que chez lui, il y a aussi un souci du peuple.
Du peuple, oui, de l'autre.
Et de justice. Et il a le courage, à l'époque, alors qu'il était, on va dire, le bras droit intellectuel du pouvoir, qu'il a été dépendant du pouvoir, puisqu'il travaillait dans une bibliothèque, etc. Il a été le protégé, mais après il l'a quitté. Mais il a toujours eu, même près du pouvoir, le culot, on pourrait dire, de dire au souverain... ce qu'il pensait de l'état du peuple, de la misère paysanne. Et quand on voit un peu le monde actuellement, on se dit, mais c'est vrai que c'est une voix extrêmement importante. Et il dénonce la richesse des puissants, leur cynisme devant les paysans qui vivent une détresse, la misère, etc. Et c'est ça qui me plaît, parce que chez lui particulièrement, parce qu'il arrive à concilier... la méditation, la contemplation, la sagesse,
l'action,
et sans l'oubli de l'autre, ce qui est un risque, parce que parfois on peut vivre comme ça, séparé du monde, et devenir dans une espèce d'univers complètement feutré, une espèce de cocon spirituel, et qui fait qu'on n'a plus le souci des autres. Ouais. Et chez Pocouilly, il y a toujours le souci des autres, hein, et je trouve que c'est un auteur d'autant plus fiable, et une grande cohérence avec sa vie en même temps, hein, pas simplement du prêchi-prêcha, mais quelqu'un qui a essayé de faire que les mots correspondent aux actes et à son existence concrète, quotidienne.
On lira avec beaucoup d'intérêt ce futur livre. En attendant, évidemment, je renvoie nos auditeurs et nos auditrices à L'autre vie, publié chez Gallimard. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et je vais demander à Laura de nous dire un dernier poème. Tout à l'heure, donc après cette lecture, il y aura un petit peu de musique. Et puis nous retrouverons nos chroniqueurs, donc je le précise, Jacques Morin, Louis Dubot et Jean-Claude Touzeil. Merci Yves Leclerc.
Merci à vous, merci pour votre accueil.
Et merci Laura.
Merci.
Source miraculeuse. Oh, vois là-haut, tout là-haut perché sur le toit du monde de ta bibliothèque encombrée, le petit pêcheur japonais. Sous son chapeau en porcelaine, il sourit. Il a pourtant perdu son fil à pêche et son fagot de bois. D'un bibelot ébréché sur la bibliothèque, 29 janvier 2003.
Vous venez d'entendre l'art du shakuhachi. Il s'agit d'une flûte japonaise parfaite pour illustrer la poésie d'Yves Leclerc. Sans plus tarder, je vous propose d'écouter en enfilade notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la revue Des Charges, suivi de Louis Dubeau, l'un des piliers de la revue Des Charges également.
Revue du mois, audio numéro 52, Météore. Numéro 1. Une toute nouvelle revue semestrielle basée sur la région d'Amiens, publiée par les éditions La Chouette Imprévue, autour d'une cellule poétique constituée de Christophe de Kerpel, Sébastien Couillec, Antoine Maine et Ramiro Oviedo. Aussitôt, un certain nombre de noms de poètes du coin viennent à l'esprit qui sont bien présents dans ce numéro de lancement. Jean-Louis Rambourg, Lucien Suel, Philippe Blondeau ou Muriel Compère de Marcy. La revue est soignée sur papier glacé, un format original, 19/27, qui lui permet, grâce à une police de petite taille, de présenter un double colonnage. Et les photos de Benjamin Técèdre sortent confortablement en rapport avec le thème de la livraison « Espace ». On en revient au titre. Dans la même conjonction de sens. Météore sans accent, c'est à la fois le surnom du groupe fondateur et le symbole d'une poésie qui déferlerait à travers les étoiles. Ainsi, la photo de couverture a-t-elle cette forme d'astéroïdes en mouvement sur fond de ciel noir, mais on ne peut s'empêcher de penser à une boule de papier jetée rageusement à travers le cosmos. On pense aussi vaguement à une marque de bière. Le poète invité, c'est Serge Peille, poète toulousain qui, à force de se coltiner avec la langue aussi bien écrite qu'orale, est devenu monstrueux et un personnage exceptionnel de la poésie d'aujourd'hui. Il donne ici une sorte de conte, d'une façon plus narrative qu'à l'accoutumée, avec une parole charnelle et crue qui ne s'embarrasse pas de détours ni d'euphémismes. Sa postface au numéro revient davantage à cette langue droite, acérée, aiguë, dont il s'est fait une spécialité, où on peut observer ce phénomène singulier dont il est détenteur, la double métaphore, lorsque la première à peine éclose s'enroule et débouche sur la seconde. Un cosmos qui nous regarde et que nous sacrifions dans les poils à frire des abattoirs de la langue. Ramiro Oviedo lui rend hommage dans une forme assez similaire et parle de payétique. C'est l'art de dépasser l'écriture en s'appuyant sur un pacte avec l'autre. Jules Évrard établit un pont entre Artaud et Peille. Enfin, la fiche de Peille revient sur ses débuts, la revue Émeute après ses débuts à multiples, les éditions Tribu. Thème de la revue, espace donc, avec Jean-Louis Rambourg qui décline différents portraits de Madame. On parle de hub pour désigner cette zone, le mot sort de la bouche comme le rot qui suit une gorgée de soda. Lucien Suel qui donne, à sa façon, une épopée en science-fiction. Patrice Maltaverne, pour rester dans le même registre, propose des extraits de « Toute ma vie sur la Lune ». Philippe Blondeau regarde dans son uranoscope « Tout ce troupeau là-haut, broutant ses prairies de silence, nous sidère ». Christophe de Kerpel, Ramiro Oviedo, Laurence Vielle et ses textes sonores à lire à haute voix avec Jean-Patrice Roux comme Émile Gévard ou Aurélie Técèdre, puis Muriel Compère de Marcy. Le buvard collé contre les plâtres du palais avait un goût de rebut. Sébastien Couillec et enfin Antoine Maine. Au dehors, la tempête a disparu, engouffrée tout entière dans le sexe géant ourlé de roses du crépuscule. On attend le numéro 2 prochainement, thème le passage, poète invité, Jean-Louis Rambourg. 14 euros, 134 rue du docteur Rignui, R-I-N-U-Y, 80-260, Flessel. À la prochaine fois.
La vélosophie, le QI plutôt que l'EPO. Connaissez-vous Guillaume Martin ? En juillet dernier, il a participé à deux événements exceptionnels, le Tour de France et le Festival d'Avignon, non pas en touriste passif, mais en acteur professionnel. D'une part, en qualité de coureur cycliste, il a terminé 12e du Tour de France et 3e coureur français. D'autre part, comme auteur d'une pièce de théâtre à succès, intitulée « Platon vs Platoche ». Un bien singulier personnage, un tantinet insolite tout de même. Une espèce de poète, pourrait-on dire, s'il n'était un philosophe, dont le sujet du mémoire de master en philosophie était le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne. Si la philo mène à tout, comme se plaisait à dire un de mes profs de fac François Dagonier, Guillaume Martin montre et démontre que le cyclisme amène à la philosophie, dans un livre épatant dont le titre « Socrate à vélo » résume excellemment la thèse et le propos. Ce livre ouvre la voie et donne la voix aux vélosophes, philosophe cycliste ou cycliste philosophe comme on voudra, dont l'auteur est, pour l'instant, le meilleur et l'unique représentant. Mais sa réflexion, à partir de son expérience de coureur cycliste professionnel, s'élargit au problème plus vaste et fort pertinent du rapport entre le sport et la philosophie, entre l'agir et le réfléchir, entre la praxis et la théoria, comme on disait chez les Grecs antiques. En effet, et je cite le point de départ de la thèse, « philosophes et sportifs ont tort de s'ignorer les uns les autres, car ils s'intéressent en réalité à la même chose, ce que veut et peut l'humain. » Jusque-là, à cause d'un préjugé intellectuel dont l'origine prend sa source dans le dualisme cartésien, qui établit une radicale différence de nature entre l'âme, c'est-à-dire la pensée théorique pure, et le corps, réduit à une machine technomécanique, la tête et les jambes ne combinaient pas trop, voire s'ignoraient et se toisaient avec mépris. Bien que quelques philosophes eussent déjà montré l'inanité d'une telle conception psychorigide. À l'instar de Spinoza, pour qui l'âme et le corps, c'est la même substance mais saisie de deux points de vue différents, donc coexistent parallèlement, de sorte que lorsque le corps meurt, l'âme qui lui est attachée disparaît. On ne dira jamais assez, et Guillaume Martin le rappelle avec insistance, la modernité de Spinoza. Tel également Nietzsche, qui faisait de l'effort physique, randonneur, il aimait marcher dans les montagnes et contre le vent, une condition essentielle de la vigueur de la pensée. Ou tel encore Socrate, précurseur et premier philosophe de l'histoire, à l'intelligence quasi divine, selon son biographe Platon, et qui se rendait quotidiennement au gymnase, qui, soldat, se montrait le plus brave d'entre les braves, etc. Bref, dans ce livre, on revisite en quelque sorte les grands philosophes en allant chercher chez eux un peu plus de compréhension de notre humanité ordinaire telle que nous tentons de l'accomplir et la réaliser aujourd'hui. Et ce Socrate à vélo n'est pas difficile à lire ni pénible à suivre. L'écriture en est limpide, allègre, joyeuse et quasi prime sautière. L'auteur fait montre d'un humour communicatif en construisant un développement qui mêle essais théoriques et récits romanesques, qui parfois balance entre la fable et la farce, tout en véhiculant un sérieux dans la démonstration rigoureuse. Le livre se compose de deux parties à peu près égales. La première, intitulée « Avant le tour », est consacrée à la préparation du coureur cycliste, longue et fastidieuse, mais nécessaire pour être meilleur de sa forme, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Il faut un corps de gagneur et un esprit gagnant. La seconde partie, intitulée « La course », est une parodie de l'épreuve dont les étapes successives empruntent celles du Tour 2017. Les vélosophes sont à la peine, échappés à avortés et défaillances sévères, envolés victorieuses et ivresses des vainqueurs. Rien n'est épargné des mille et une péripéties du Tour de France, dont les vedettes sont des philosophes et quelques coureurs mythiques dont le nom est à peine modifié. Anquepil, Ulrich, Zadel, Altisch, Vragzik, tous se mêlent les uns aux autres, coude à coude viril dans les sprints ou ascension solitaire dans l'école, rivalité jalouse entre Platon et Aristote, puis complémentarité solidaire au service du leader Socrate. Et à l'arrivée, bien sûr, les commentateurs sportifs, puis les débriefings sur les plateaux télé, donnent de savoureux moments d'humour vache à l'encontre des pseudo-journalistes peu avares de dithyrambes bétifiantes mais qui n'ont toujours pas compris que le QI s'est avantageusement substitué à l'EPO. À l'arrivée sur les Champs-Élysées, le palmarès du Tour de France des philosophes, sous-titre du livre, est splendide. Que des champions, c'est-à-dire des surhommes, au sens nietzschéen que Guillaume Martin accorde à la notion. Je cite « Un athlète surhumain n'est pas un mutant, aux performances boostées artificiellement, considérant que la fin justifie les moyens. » Ce serait plutôt celui qui exploite les dispositions naturelles, déjà exceptionnelles en soi, de la meilleure manière. Ce serait le champion. En effet, le podium réunit Spinoza maillot jaune des vainqueurs finales, Nietzsche maillot à poids du meilleur grimpeur, Platon maillot blanc du meilleur jeune, Marx qui reçoit le trophée du super combatif, sans omettre ceux qui se sont illustrés au cours de la grande boucle, Socrate évidemment, Aristote, Pascal, Freud, Averroès, Machiavel, Marc Aurèle, le fougueux coach Jean-Paul Sartre, le malchanceux Heidegger tombé dans un fossé, etc. Cet ensemble de philosophes pourrait articuler un excellent programme de philosophie pour les futurs candidats au baccalauréat. L'ex-professeur de philo que je suis n'a pas oublié qu'il a enseigné à des élèves de section sport-études. Il aurait vivement recommandé la lecture d'un tel livre à ces jeunes gens, ainsi qu'aux non-sportifs, bien sûr, ça lui aurait grandement facilité la tâche. Que les futurs bacheliers qui viennent de faire leur rentrée scolaire lisent Socrate à vélo et le fassent lire à leur prof de philo. Guillaume Martin, Socrate à vélo, édition Grasset, le livre est en vente dans toutes les librairies.
C'était John of Arc, Orchestral Manor in the Dark, extrait de l'album Architecture et Morality. Tous ceux qui ont écouté cet album l'ont aimé, c'est mon cas. Et bah pourquoi ne pas diffuser de la musique New Wave dans une émission de poésie? Je vous le demande un peu. Voilà, on va se quitter avec Jean-Claude Touzeil et ses petites surprises qu'il nous réserve chaque mois, des poèmes de son choix, puis des poèmes de lui. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment sur La Route Inconnue dans une paire de semaines. D'ici là, restez nos fidèles, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde. Alors, reprise des activités poésie avec un poète japonais qui s'appelle Shiki Masaoka, connu sous le nom de Shiki. Pour le situer un petit peu, il a vécu peu de temps, le pauvre, victime de la tuberculose. Ses dates, 1867-1902, victime de la tuberculose. Il a écrit beaucoup de haïkus. En voici quelques-uns, vous pouvez les retrouver dans un livre qui s'intitule simplement « Le mangeur de kaki », édition Mondaren. Voilà. Du grand cerf-volant, pas un seul Milan ne s'approche. Avec quelqu'un qui connaît le nom des étoiles, prenant le frais sur le seuil. Tenant une bougie, la nuit sous la pluie, je regarde la greffe sur l'arbre. Au papillon, je propose d'être mon compagnon de voyage. Une carpe saute, des rides à la lune d'automne. Quand l'escargot lève la tête, il me ressemble. J'ai envie de dormir. S'il te plaît, frappe les mouches doucement. Un grillon, là où le chien est enterré, dans un coin du jardin. Et puis le dernier qui voulait une espèce de signature. Un mangeur de kaki qui aimait les haïkus. Ainsi faudra-t-il se souvenir de moi. Shiki. Voilà, et puis pour continuer dans la tradition, je vais vous lire un de mes poèmes qui est un peu ancien, mais bon, il tient encore pas mal la route, je trouve. Ça s'intitule « Miss » et c'est dédié à la Statue de la Liberté à l'entrée du port de New York. La liberté est creuse à l'intérieur, avec des escaliers pour monter. Les ascenseurs sont interdits au public pour raison de sécurité. La liberté a beaucoup souffert ces derniers temps. Des ouvriers sont obligés de la repeindre pour cacher la misère. La liberté monte la garde, chacun son métier, tandis que des policiers la surveillent du coin de l'œil. La liberté n'a pas de dessous, et plus d'un homme rêve devant son sex-appeal, mais elle aussi ne s'use que si l'on s'en sert. Voilà, c'était un extrait de Dans la région du cœur, poésie clandestine. Je vous dis à bientôt. If I was staggering plane, staggering painted red, fly over to your house, baby, buzz you in your bed. Red 300S.
your house, baby, give you driving pills. Fender guitar, Fender painted red. You could play me, darling, until your fingers bled.
If I was one of them Gibsons, like a 58 or 9, you could plug me in and play me anytime.
Gonna be right or any hour, you'd be a right. If I was motorcycle, Vincent Red Repeat, I'd ride around to your house, baby, get you up to speed.